La première question que je veux vous poser, M. Damour, par rapport à ce dossier-là, est-ce que vous respectez ces chiffres-là, finalement, qui arrivent du ministère de l'Éducation, ou est-ce que vous tenez à mettre des bémols?
Ben, écoutez, comme le ministère l'indique lui-même dans son document, ce sont des prévisions à long terme. Au-delà de 5 ans, ce sont des prévisions spéculatives. Mais par contre, elles illustrent une perpétuation des tendances qu'on peut observer au cours des dernières années. Alors effectivement, si on se projette en 2032-33, c'est 26% de l'effectif scolaire qui sera qu'on aura en moins à la Commission scolaire du fleuve des Lacs si on compare aux données de 2016-2017. Donc c'est une tendance, et c'est une tendance qu'on observe encore cette année par rapport à l'an passé, où, grosso modo, on a à peu près une perte de 40 élèves, là, ouais. tout service confondu.
Monsieur Damour, de quelle manière on se positionne, ouais, par rapport à des prévisions comme celle-là? Parce que, bon, évidemment, il y a ce qu'on peut faire, puis il y a ce qu'on peut pas faire, puis même si l'immigration augmentait à un point tel qu'on devait former au-delà de 1000 petits immigrants d'ici 2032, il y a rien de garanti de ce côté-là. Comment on se positionne? Est-ce qu'on se prépare simplement à gérer la décroissance, puis éventuellement à fermer des écoles, puis comment on se prépare à ça, si on se prépare?
Ça fait quelques années qu'on gère la décroissance. Je vais vous donner un exemple. Bon, vous parliez à savoir tout à l'heure, vous n'y serez pas là dans 15 ans. Je vous rassure, moi non plus, je n'y serai pas. Mais il y a un certain nombre de cadres dans les prochaines années qui vont prendre leur retraite puisque le temps avance pour tout le monde. Et lorsque on est au courant de ces données-là, on est en train de planifier actuellement le remplacement de ces cadres-là et voir comment on peut organiser les services et surtout les dispenser de façon efficace tout en ayant derrière la tête que notre défi, c'est la décroissance démographique, ouais, des élèves de notre commission scolaire. Alors, on cumule des tâches au niveau des services. Pour ce qui est des élèves en tant que tels, pas d'élèves, pas d'enseignants. Donc, là aussi, lorsqu'il y a des prises de retraite, il y a certains enseignants qui ne sont pas remplacés faute d'élèves dans certains milieux. Par contre, il y a d'autres milieux, Saint-Jean-de-Dieu pour pas le nommer, où on voit une augmentation de la clientèle dans les dernières années. On a vécu la même chose à Saint-Louis-du-Haut, où l'école explose en termes de nombre d'élèves. Ouais. Saint-Athanas, il y a quelques années, on avait à peine le nombre d'élèves pour maintenir 2 classes. Maintenant, la population scolaire a augmenté. Donc, ouais, c'est la géométrie variable d'un village à l'autre. Mais actuellement aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, et ça, je le répète souvent, actuellement, le mode de financement des commissions scolaires par rapport au maintien de la dernière école de village, le financement est au rendez-vous. Maintenant, on a fait un choix de société au début des années 2000 pour assurer le financement et le maintien des écoles. Est-ce que ce sera le cas dans 15 ans? Vous et moi, on sera pas là, comme on s'est dit.
Et y a une chose aussi qu'on doit mettre dans la balance, c'est que est-ce que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, il y aura la migration vers ce qu'on pourrait appeler les villes ou les communautés de plus grande importance sur un territoire, que ce soit celui du fleuve et des lacs ou de Kamouraska-Rivière-du-Loup, de n'importe quelle autre commission scolaire qui doit se partager entre des villes ou des municipalités plus importantes et de toutes petites municipalités? Est-ce qu'il faudra revoir aussi l'organisation du transport scolaire dans certains cas? Est-ce que les élèves auront plus de kilomètres à faire pour aller recevoir l'éducation? C'est autant de questions qui seront à débattre et qui seront à régler en temps et lieu.
Ouais, ça dépend toujours du type de service qu'on veut se doter. Par exemple, au niveau du transport scolaire, les recherches nous disent qu'un élève qui fait 45 à 50 minutes de parcours d'autobus, soit le matin ou le soir, c'est le maximum si on ne veut pas altérer ou influencer négativement son développement et sa réussite. Alors, ça, c'est une donnée qu'on a. Maintenant, comment on va l'utiliser dans le futur pour organiser le service? Est-ce que nos élèves auront à se déplacer de façon plus grande? Ça, c'est une chose. Ouais. Actuellement, le territoire, comme vous savez, le territoire de la Commission scolaire du fleuve des Lacs est un territoire qui compte 5 200 km². Nos autobus scolaires font 10 000 km par jour si on additionne l'ensemble des parcours. Ouais. Alors déjà, il y a un défi pour aller chercher nos élèves. Et un élève, par exemple, qui habite dans un rang X et que entre l'avant-dernier élève, il y a 5 kilomètres, ben il faut aller le chercher quand même.
Ouais.
Alors, ça dépend comme société ce qu'on va se donner, quelle qualité de service on veut donner.
Est-ce qu'on se trompe, M. Damour, aussi, bon, à première vue, peut-être que cette première vue-là est de trop courte vue, mais est-ce qu'on se trompe à penser que cette décroissance-là va quand même se gérer assez aisément pour une raison qui est fort simple, c'est que ça n'arrivera pas tout à coup. Ça va se faire progressivement et d'année en année, avoir les inscriptions, ben on sera en mesure de faire ce qu'il faut pour corriger la situation.
Et d'ailleurs, si je regarde certaines prévisions du ministère qui partent du document dont vous avez fait mention en début d'entrevue, le ministère s'est trompé un petit peu dans les dernières années. Pas énormément. On parle d'un écart de 20 élèves ou de 25 élèves annuellement par rapport à la prévision du ministère et les chiffres réels que nous avons à la commission scolaire et que nous déclarons dans les systèmes informatiques du ministère. Bon, évidemment, 20 élèves ou 25 élèves par année, ce n'est pas si significatif que cela. Par contre, ça vient un peu illustrer ce que vous dites tantôt. Il faut y aller pas à pas. Bon, 25 élèves dans une école de village, c'est deux classes de plus.
Oui.
Alors, évidemment, on les prend tous, on les compte tous un à un pour organiser les services dans nos villages.
Oui. Entre-temps, vous m'avez parlé de Saint-Jean-de-Dieu, vous m'avez parlé de Saint-Louis-du-AA, où il y a quand même là émergence de plus d'enfants, une espèce de baby-boom dans ces municipalités-là. Ça m'amène à vous poser la question concernant la surpopulation des classes. On voit que à Kamouraska-Rivière-du-Loup, on y va cette année pour l'installation d'annexes qui sont jugées comme étant temporaires. Est-ce qu'à Dufleuve-et-des-Lacs, il y a des écoles où on devrait également installer des annexes?
Non, pas du tout. Écoutez, pour l'instant, il n'en est pas question. On a quand même de la place. Si on regarde à Saint-Jean-de-Dieu, c'est quand même des écoles qui ont été construites à la fin des années 60, début des années 70, pour accueillir un nombre d'élèves beaucoup plus important qu'actuellement. Bien sûr, les programmes ont changé. Bien sûr, si on regarde les programmes de sciences, par exemple, au secondaire, on a besoin de laboratoires plus sophistiqués, plus d'espace. Les besoins ont évolué, mais quand même, on est encore dans un espace là qui nous permet d'utiliser nos locaux, même s'il y a un petit boom dans certains villages, on a encore suffisamment d'espace, on s'organise, on réorganise les trucs pour donner le service. Donc, ce n'est pas malheureusement ou heureusement, c'est selon. On n'est pas dans cette dynamique-là d'ajouter des modules.
Ouais. Et pendant ce temps-là, votre taux de diplomation et de qualification est toujours aussi bon. Vous êtes parmi les meilleurs au Québec. Et encore là, ce sont les statistiques du ministère de l'Éducation qui le révèlent. Et ça, ben c'est quand même, en tout cas, moi personnellement, si j'étais membre du conseil des commissaires ou directeur général de la commission scolaire, il me semble que ça me ferait du bien de voir que d'année en année, on performe bien.
Oui, il faut alors établir une corrélation entre le modèle de petites écoles et les résultats. Si on regarde dans l'ensemble du Québec, force est de constater que les commissions scolaires moins populeuses, là, si je peux m'exprimer ainsi, en général, réussissent mieux. Alors, la configuration des commissions scolaires que nous avons actuellement pour le réseau des commissions scolaires, pour nous, les administrateurs scolaires, ça nous semble correct et la vague de fusion qu'on a vécue en 98 qui a mené à la création, par exemple, du Fleuve et des Lacs, bien, par rapport au territoire que nous avons, par rapport aux services que nous avons à rendre, bien, je pense que le modèle a fait ses preuves. Et on a fait certaines études aussi, là, internes et même externes. On est une des commissions scolaires où nous avons un plus grand nombre de classes à niveau triple. Et nos élèves, comme vous le dites, réussissent bien. Ouais. Donc, small is beautiful, si
ouais.
j'ose dire.
Ouais. Il y a CIMT-TV qui a fait paraître cette nouvelle-là à la fin de la semaine passée, à savoir qu'il ne reste que 10 jours à l'école primaire de Saint-Marc-du-Lac-Long. On va fermer cette école-là en raison du manque d'élèves. Évidemment, on peut pas s'empêcher de relier ça avec le premier sujet qu'on a abordé dans l'entrevue de ce matin. Je vous pose quand même la question. Est-ce que c'est une fermeture définitive? Probablement que vous allez me répondre. S'il y a plus d'enfants, il y aura à nouveau une école. Probablement que la réponse est aussi simple que ça.
Non, il n'y a pas de fermeture définitive.
Non,
le conseil des commissaires est clair là-dessus. Nous nous travaillons en collaboration avec les communautés, avec les municipalités et les parents pour maintenir toutes nos écoles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le financement est au rendez-vous globalement, sauf qu'il y a un certain seuil que nous ne pouvons pas franchir. Actuellement, la situation à Saint-Marc-du-Lac-Léon, pour cette année, on n'a pas assez d'élèves pour démarrer, selon les normes de financement du ministère, on n'a pas assez d'élèves pour démarrer une classe en 1, 2, 3. On n'a pas aussi assez d'élèves pour démarrer la classe de 4, 5, 6.
Où est-ce qu'on envoie les enfants qui ont besoin d'être scolarisés dans ces niveaux-là?
Ils sont à Rivière-Bleue actuellement.
D'accord.
Et bien, l'école n'est pas fermée. Au moment, si cette année on peut pas démarrer, l'an prochain, on va tout faire pour être capable d'obtenir le nombre requis. Et l'école, en fait, pour l'année scolaire 17-18-19, c'est une interruption temporaire des services éducatifs. Ouais. On ne parle pas de fermeture, parce que là, lorsqu'on parle de fermeture, on parle que le bâtiment n'est plus disponible à recevoir des élèves.
Ouais.
Et si jamais, dans 3, 4, 5, 6 ans, on retrouve le nombre, puis que l'école est définitivement fermée, alors c'est fini à jamais. Ouais. Dans le cas de Saint-Marc-du-Lac-Léon, on est loin de là.
Dites-moi, M. Damour, la question est bonne, on vient de me la suggérer. Pourquoi fermer cette école-là 3 semaines après l'ouverture des classes ou 1 mois après l'ouverture des classes? Vous deviez savoir ça au mois de juillet, au mois d'août?
Ben, écoutez, parfois, ça bouge beaucoup. Nous, on attend à la dernière minute avant de prendre une décision parce que l'été, il peut se passer plein de choses. On l'a vécu dans le passé, à savoir, il y a peut-être des familles qui arrivent, des familles qui quittent. Donc, jusqu'à la fin du mois d'août, là, jusqu'à ce que les élèves arrivent, nous, on est confiants de pouvoir avoir le nombre requis pour ouvrir les classes. D'ailleurs, à Saint-Marc-du-Lac-Léon, pour prendre cet exemple-là, au mois de juin, on ouvrait les classes, là. Sauf que la clientèle scolaire a bougé, des déménagements, parfois il y a des familles aussi dont la situation change par rapport à des séparations, par exemple. Donc, ce qui fait que les élèves qui devaient être dans une municipalité X 3 semaines, mois après, changent de ils inscrivent les enfants ailleurs pour toutes sortes de raisons qui appartiennent aux familles et on doit le respecter.
Ouais. Dans ce cas-là,
c'était, on était vraiment là, on était à un moment donné, on avait le nombre, on l'a perdu, on l'a regagné. Donc avant de dire ça, il n'y a pas de classe, et finalement, 3 semaines après, on dit, ben finalement, il y a 3 élèves qui est arrivé, on part. Je vais vous donner un autre exemple, cette fois-là, plus positif. Sainte-Françoise, 6 élèves durant l'été sont arrivés, dû à des déménagements, c'est-à-dire à des arrivées vers le village de Sainte-Françoise, qu'on avait vraiment propre vue au 32 juin. Alors, tard au mois d'août, nous avons été dans l'obligation d'ajouter une classe. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle on tente par tous les moyens, avant de rendre une décision finale, de voir si la population scolaire va bouger ou
non. J'imagine que pour les profs, c'est moins... Pour les enfants, pour les parents, c'est pas drôle, mais pour les profs, encore bien moins.
Un mois, tu enseignes dans telle école, et le mois après, ben, tu peux être déplacé vers une autre.
Donc,
c'est pas une situation idéale, je l'admets, mais entre le confort des individus et le démarrage d'une école, on choisit la deuxième.
Je comprends. Merci, M. Damour.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Bernard Damour, le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs.